On commence ce journal des sciences avec une annonce qui a été très relayée par les médias depuis le début de la semaine. La compagnie pharmaceutique Biogen veut mettre en vente l'aducanumab. C'est un nouveau traitement pour lutter contre la maladie d'Alzheimer.
Et dans la presse, on peut lire un médicament miraculeux ou le médicament révolutionnaire. Ce qui est assez surprenant, hein, car en mars dernier, Biogen a annoncé l'arrêt des essais thérapeutiques de ce médicament suite à une succession de résultats négatifs. Pourquoi donc une telle résurrection? La compagnie a réexaminé les données de ses anciennes études et a fait l'analyse d'un sous-groupe de sujets. Sur les 1600 patients, une partie a reçu des quantités plus fortes d'aducanumab et chez ces patients, il y aurait eu des bénéfices cliniques. Le médicament aurait ralenti le déclin des capacités cognitives avec une amélioration de l'ordre de 27%. Biogen affirme donc que son traitement est efficace à plus forte dose et s'il est pris tôt dans l'évolution de la maladie. Mais la société n'a pas publié ses dernières analyses et la communauté scientifique reste sceptique. Marie Sarrazin est neurologue clinicienne à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Elle dirige l'unité de la mémoire et du langage.
D'abord, c'est pas un médicament qui guérit, c'est un médicament qui a ce qu'on appelle un anticorps monoclonal, dont l'objectif, c'est de lutter contre l'accumulation d'une protéine qui est la protéine amyloïde et qui est une des facettes qui explique la maladie, mais pas la seule. Il y a d'autres protéines, il y a d'autres molécules. Et donc, ce que semble apporter la molécule, c'est que ça réduit la progression de l'évolution clinique de la maladie. Là, la molécule n'apporte pas une guérison, ça ne stabilise pas, ça permettrait de ralentir en fait la progression. Nous, on sait qu'il faut être prudent parce que les analyses secondaires comme ça, qui sont faites ensuite, a posteriori, il faut être prudent, elles n'ont pas la même valeur que quand on analyse directement les données dont on avait mis l'hypothèse principale. Et quand on analyse ensuite les sous-groupes après l'étude, on peut le faire sur les plans scientifiques, mais ça n'a pas du tout la même valeur sur le plan méthodologique. Ça n'a une valeur qu'informative. C'est-à-dire que ça peut dire que si l'essai est négatif et qu'on analyse un sous-groupe, on dit « Ah oui, mais dans ce sous-groupe de sujets-là, eh bien la molécule semble être efficace », eh bien il faut le démontrer dans une seconde étude. Ça ne suffit pas en soi pour conclure. C'est une source d'espoir. Moi, je pense qu'il faut quand même, on aimerait que ça soit confirmé, mais qu'il faut être prudent tant qu'on n'a pas les informations précises de l'étude, que c'est pas publié et qu'on n'a pas l'ensemble des informations. Parce que là, c'est vraiment l'information donnée par l'industriel et qui est discordante avec celle qui nous avait fournie en mars dernier.
Et on passe au bref. Hier, dans la revue Nature, un élément lourd du strontium a été détecté pour la première fois lors d'une fusion d'étoiles à neutrons.
Une équipe internationale a examiné les observations du très grand télescope de l'Observatoire européen austral du Chili. Après l'analyse des spectres d'une kilonova, c'est ce qui se produit après une fusion de deux étoiles à neutrons, ils ont détecté du strontium, l'élément chimique de numéro atomique 38. Jusqu'à présent, on pensait que la nucléosynthèse de cet élément ne pouvait être produite que par des supernovas. Cette étude confirme l'hypothèse que les éléments les plus lourds de l'univers peuvent aussi se former lors de la fusion d'étoiles ordinaires.
Selon The British Medical Journal, les médecins peuvent tenter de sauver les grands prématurés nés à 22 semaines.
Mais auparavant, il était recommandé de ne traiter que les bébés nés à partir de 23 semaines. Mais selon les nouvelles directives de l'Association britannique de médecine périnatale, les grands prématurés peuvent survivre. Les chances de survie restent faibles, 7 bébés sur 10 nés à ce stade décèdent. Mais les progrès de la médecine, l'utilisation de stéroïdes et la mise en place d'unités spécialisées peuvent sauver un tiers de ces grands prématurés.
Et selon une étude parue cette fois dans Nature, les traces d'une ancienne vie microbienne ont été retrouvées dans le plus grand cratère météorique d'Europe.
Le cratère suédois Siljan s'est formé il y a environ 375 millions d'années. Les chercheurs de l'université de Linnaeus ont fait l'analyse de forages rocheux. Ils contiennent de minuscules cristaux de carbonate et de sulfure de calcium, le signe d'une activité microbienne. Ils ont ensuite utilisé des techniques de datation par radioisotopes. Ces cristaux se sont formés entre 80 et 22 millions d'années et des bactéries auraient prospéré là pendant 300 millions d'années. L'étude suggère que si la vie existe sur d'autres planètes, elle peut être déclenchée par des impacts de météorites car ils favorisent la colonisation bactérienne.
Merci beaucoup Natacha. Toutes les études, une fois de plus, qui sont citées dans le Journal des Sciences, vous pouvez les retrouver sur notre fil Twitter @laméthodefc avec les liens vers les publications originales. Et puis demain, eh bien comme tous les vendredis, ce sera le grand Journal des Sciences de la semaine. Voilà, demain et puis voilà, et puis ce sera demain.